On commence avec Interroge, le service des bibliothèques de la ville de Genève. Quelques détails pour les auditoristes qui ne le connaîtraient pas encore. Premièrement, la plateforme est gratuite. Ensuite, les réponses sont tapées sur un clavier par des mains humaines qui fournissent leurs sources. Et enfin, les réponses ainsi créées sont mises à disposition sur le site. Susanna Kamehan, vous êtes trois à coordonner Interroge. Peut-on avoir le parcours type d'une question? Quand vous en recevez une, comment est-ce qu'elle est traitée?
Alors, après que la personne, l'usager, l'usagère ait posé sa question sur interroge.ch, on reçoit tout de suite une notification par mail. Et on gère aussi la plateforme qui nous sert justement à la gestion des questions et des réponses. On reçoit également la question sur cette plateforme. Et à ce moment-là, on discute beaucoup, on parle entre nous de si la question mérite d'être, par exemple, distribuée, assignée au réseau des bibliothèques, parce que donc il y a plusieurs bibliothèques, toutes les bibliothèques de la ville de Genève participent à ce service.
Oui, et au total, une quarantaine de personnes collaborent, en fait.
Oui, absolument. Donc répartis, effectivement, dans toutes les bibliothèques de la ville de Genève, une quarantaine de personnes. Donc, nous analysons, en fait, la question, le domaine de la question.
Si elle est pointue, vous allez l'envoyer ailleurs.
Exactement, ouais. Mettons, c'est une question d'art, on va l'assigner à la bibliothèque d'art et d'archéologie, où il y a des collègues qui vont répondre avec leur collection, avec leurs connaissances, avec leurs experts aussi, leurs expertes, les conservateurs, les conservatrices qui travaillent dans les musées, le muséum, le MHN par exemple, le muséum d'histoire naturelle, participe aussi à ce réseau. Ils ont des experts, ils ont des collections vraiment prévues pour pouvoir répondre à des questions pointues.
Quelques exemples de questions piochées parmi les dernières en date. Mm-hmm. Le CO2 influe-t-il sur la température terrestre? Peut-on expliquer pourquoi il est beaucoup plus simple de s'exprimer oralement que par écrit? Et enfin, le mot virilité a-t-il un équivalent féminin? Alors, vous garantissez une réponse sous 72 heures, mais j'imagine que le temps de travail varie d'une question à l'autre. Quelle est la fourchette?
Oui, absolument. Alors, on ne dépasse pas les 4 heures. On ne dépasse pas les 4 heures pour répondre à une question, tout simplement parce qu'on ne peut pas travailler sur une question pour une personne, même si la réponse va être mise sur la plateforme et peut-être consulté par des centaines de personnes ensuite, on ne va pas dépasser 4 heures pour répondre à une question.
Parce qu'en fait, on pourrait développer à l'infini, effectivement, quand on commence à donner des détails sur un sujet, c'est vrai qu'on risque de s'y perdre.
Tout à fait. Et puis, c'est vrai que suivant l'intérêt qu'on porte à la question, on va vouloir aller plus loin, on va vouloir, voilà. Mais il faut qu'on se limite, il faut aussi pas faire des réponses hyper longues qui vont peut-être décourager les gens à lire. Donc voilà, on va de toute façon, on propose toujours les sources, comme vous l'avez dit au début. On propose des sources, soit en ligne, soit des sources à consulter sur place dans les bibliothèques. Et les personnes, si elles veulent aller plus loin, il va falloir qu'elles se renseignent et qu'elles aillent emprunter les livres ou lire plus loin, quoi.
J'aimerais comparer l'efficacité humaine à celle des robots. Lorsqu'on préparait l'entretien, vous m'avez dit devoir répondre à des questions complexes, intraitables par ChatGPT. Quelles sont celles qui vous donnent le plus de fil à retordre?
Alors, celles qui donnent... Il y a divers types de questions qui peuvent donner du fil à retordre. Et ce n'est pas forcément celles qui semblent le plus évidentes comme ça au départ. C'est que justement, quand on en discute, on se rend compte qu'on n'a pas forcément le même point de vue, qu'on ne va pas forcément aller là où la première chose, enfin la première idée nous menait. Donc, mais par exemple, les questions où on nous demande si c'est vrai ou si c'est faux. Où il y a un postulat de départ, où la personne part tout en posant la question, suggère déjà que la réponse est celle-ci ou celle-ci. Ou là où il va falloir un peu réexpliquer, en fait, ça peut donner une réponse relativement longue. Il faut réexpliquer à la personne, c'est pas tout à fait comme ça. Et puis
oui,
ensuite,
il y a déjà un point de vue dans la formulation de la question.
Il y a
un
point de vue dans la formulation de la question. Et là, il faut dénouer, il faut défaire, en fait, il faut expliquer. Alors, de nouveau, pas trop longuement, mais voilà, expliquer à la personne que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis rediriger, et puis proposer des sources. C'est souvent, alors nous on a une charte dans laquelle
j'allais dire, c'est ce qui vous distingue justement des intelligences artificielles, parce que souvent il aurait reproché à ces dernières de ne pas être neutres dans les réponses fournies, et vous par contre vous avez une charte.
Tout à fait, tout à fait.
Quelles sont les lignes inscrites sur cette charte?
Alors sur la charte on dit qu'on fait pas, on donne pas d'opinion, on fait pas des devoirs. Avis à tous les étudiantes et les étudiants. On ne fait pas de devoirs, on ne fait pas d'expertise, parce qu'on a souvent des questions, par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire ci? Enfin, les questions sur les lois aussi, quand même, les lois du travail, la santé, voilà. Donc, c'est des sujets sensibles. Nous, on n'est pas experts de ces domaines-là. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment qu'on se protège. Et puis, soit on renvoie aussi, par exemple, à des experts, à des organismes, à des institutions qui vont répondre mieux à ces personnes-là que nous. Donc voilà, donc tout ça, c'est dans la charte. On explique qu'on ne fait pas toutes ces choses-là. Ouais.
Florent ?
Oui, moi je suis aussi toujours admiratif du travail de mes collègues, même si Susanna disait qu'ils ne fournissent pas d'expertise, mais ils ont souvent des questions sur le droit du bail, par exemple, des choses assez pointues, mais sans fournir l'expertise, qui serait le travail d'un juriste ou d'un avocat, ils vont pointer, donner à la personne qui pose la question des sources qui vont lui permettre de s'orienter, ou même sur des questions qui parfois, on parlait de neutralité, peuvent être un peu polémiques, justement donner des sources accréditées, validées, qui vont pouvoir, tout en restant nous neutres, on ne donne pas de point de vue non plus, c'est aussi un élément de la charte, mais qui vont permettre à la personne de se former sa propre opinion et de s'orienter dans la masse d'informations qui existent. Qu'une IA a un peu de peine à faire aujourd'hui encore. Elle va plutôt inventer des choses que donner des sources intéressantes.
Olivier, tu souhaites réagir ?
Pas d'expertise, avec quelques petites nuances très bienvenues, hein, je trouve, parce que je suis déjà tombé sur certaines réponses aux questions sur ce site, qui m'ont permis de débloquer des situations dans mon travail de correcteur, de relecteur, par exemple. Des questions d'ordre typographique ou en lien avec la toponymie, etc., qui vous sont posées. Et au moins, on sait qu'on a là une source fiable, un avis autorisé qui se prononce sur ces questions, et ça m'a dépanné parfois.
Et Florent Dufaux, tu gères les statistiques. Quelle était la réponse la plus consultée sur l'année écoulée ?
Alors si on regarde d'une manière globale, là, ce qui m'a surpris aussi, c'est beaucoup de questions, enfin de réponses publiées autour de la religion qui sont consultées. Et en l'occurrence, sur les 12 derniers mois, celle qui a été la plus lue, enfin en tout cas consultée, c'est de savoir pourquoi les chrétiens mangent du porc alors que l'Ancien Testament l'interdit. Voilà, donc ça c'est au niveau global. Et puis si on regarde dans la région genevoise qui est consultée, c'est plutôt des questions pratiques, administratives, comme on l'a évoqué avant.
Et oui, tu m'as parlé d'une question typique à Genève sur le bail.
Le droit du bail, effectivement, dont on a déjà parlé avant. Ouais.
Oui, et c'est une grosse problématique à Genève, en plus.
On peut imaginer.
Donc, c'est intéressant et révélateur. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous passez un bon moment dans Midi Bascule. Aujourd'hui, on parle des bibliothèques à l'ère du numérique. Ont-elles encore de beaux jours devant elles ? Pour répondre à cette question cruciale, deux personnes qui travaillent aux bibliothèques municipales de Genève sont présentes sur notre plateau. Susanna Caméane du service Interroge et Florent Dufaux, adjoint de direction et responsable de l'unité ressources technologiques et numériques. Florent, en plus des postes cités, tu es membre du comité de Biblio-Romandie. À quelles problématiques communes font face les bibliothèques publiques scolaires de Suisse romande ? Outre le prêt qui diminue, qui a déjà été évoqué, quelles autres problématiques ?
C'est un peu tout ce qu'on a évoqué. Il faut, pour toutes les bibliothèques, on le disait avec celle de Mérin avant, après l'intervention de Cédric Pouli, c'est vraiment notre enjeu principal aujourd'hui, c'est de diversifier les publics. d'adapter nos bibliothèques à des nouveaux usages aussi. On parlait de la baisse de la fréquentation qui peut arriver parfois aussi après la période Covid notamment. Mais on a surtout des usages qui se diversifient. On a des gens qui viennent pour étudier sur place. On a des gens qui viennent pour échanger peut-être, pour recevoir un conseil de lecture qui soit peut-être pas trop aseptisé si on pense à la chronique d'avant. Comment on peut faire ça de la meilleure manière possible? C'est une diversification des tâches des bibliothécaires qui sont vraiment plus, comme le disait Cédric Paulis, centrées sur leur collection, mais vraiment sur proposer une multitude de services au public.
Aux bibliothèques municipales de Genève, vous avez de la chance parce qu'il y a tellement de sites, en fait, que chaque site a ses spécificités et son type de public aussi.
Alors oui, on essaye d'avoir une offre qui soit quand même homogène, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a l'ancrage local de chaque bibliothèque a son importance. Il va y avoir des partenariats aussi qui se développent de plus en plus avec les acteurs de quartier notamment pour effectivement être au plus proche des besoins de la population.
Parmi les nouveautés OBM, une plateforme d'auto-formation a vu le jour. Qu'est-ce qu'on y trouve hein?
Alors effectivement, ça fait partie de notre offre numérique. C'est une plateforme qui va proposer des formations en vidéo ou avec des quiz interactifs dans plein de domaines différents. Ça va des langues, le français pour les personnes qui apprennent le français, français langue étrangère ou des langues étrangères pour nous. Ça va être en musique, il va y avoir en bureautique aussi, des activités artistiques. Il y a vraiment plein de choses et c'est là, ça complète assez bien finalement les collections qu'on avait jusqu'à présent, dites documentaires et qui sont, comme le disait Cédric Poli, un peu moins utilisées maintenant.
Mmh. Le site de presse consultable cartonne également.
Ouais, alors ça, c'est effectivement un site qui s'appelle Press Reader, qui est un kiosque numérique à part entière. Pour nous, c'est très important d'avoir une offre large en termes de quotidien, de magazine. Et là, ça nous permet d'offrir non seulement l'accès à de la presse francophone ou locale, mais aussi à une presse internationale, ce qu'on ne pourrait pas faire sur site, parce qu'il y a des journaux qu'on ne pourrait même pas avoir ou qui arriveraient trop tard, qui seraient trop chers à faire venir.
Grâce à votre venue, j'ai par exemple découvert que je pouvais lire le journal Le Temps, même l'édition du jour.
Voilà, tout à fait.
Après, on s'étonne que les gens ne s'abonnent plus à la presse papier, c'est terrible, non?
Alors, on offre cet accès, peut-être parce qu'ils s'abonnent plus aussi, mais ça leur permet d'accéder à une multitude. Après, c'est des accès qu'on paye, évidemment. Comme les abonnements dans nos bibliothèques. Donc, les éditeurs doivent s'y retrouver aussi.
Mmh. D'autre part, des actions ont été mises en place pour faire face aux fake news. Quelles sont-elles?
On a des ateliers, effectivement, à la Bibliothèque de la Cité, qui a maintenant un espace dédié au numérique qui s'appelle le 4e Cité, puisqu'il est au 4e étage. Des collègues qui, effectivement, ont proposé des ateliers d'aide à la recherche d'informations, voilà comment valider une information, un peu le même travail qu'Interroge, mais sous forme d'atelier, comment valider une information pour finalement s'y retrouver dans cette multitude d'infos qu'on nous impose presque parfois, j'ai envie de dire.
Mmh. Et donc, en fait, est-ce qu'on pourrait résumer que cette heure ensemble, que l'animation culturelle et l'accompagnement social sont les tâches qui deviennent centrales dans le travail des bibliothèques?
Bah, je pense, effectivement, c'est une des pistes, c'est d'aider les gens à trouver ce qu'ils cherchent, à se forger leur propre opinion, avoir un regard critique sur cette masse d'informations, qu'elle soit papier ou numérique maintenant. Ouais, ça, c'est un rôle important, effectivement.
Mm-hmm. Susanna, un autre changement notable qui n'aurait pas été évoqué?
Non, c'est assez complet, mais je rebondis juste sur effectivement cet aspect social des bibliothèques. À Interroge, on reçoit énormément de questions administratives. Et donc là, on voit qu'il y a un réel besoin de la part des citoyennes et des citoyens pour s'orienter et trouver les bonnes institutions auxquelles s'adresser.
Mmh. Mais donc ça, vous répondez, mais juste partiellement, quoi. Enfin, la base...
Oui, un petit peu comme ce que disait Florent tout à l'heure, si ça concerne des lois en particulier ou des règlements en particulier, tout est en ligne. Mm-hmm. Faut juste savoir trouver ça. Et c'est justement là où notre rôle, c'est de montrer aux gens ce qui existe et de pointer au bon endroit pour qu'ils se renseignent par eux-mêmes et qu'ils puissent aller plus loin et s'adresser aux bonnes personnes. Ouais.
Quelles sont les activités de médiation dans les prochains jours qu'il ne faut absolument pas manquer?
Alors, en ce moment, il y a une très belle exposition à la Bibliothèque de la Cité qui s'appelle « Envoyer une vie de correspondance ». Et c'est voilà, toute une exposition, un parcours autour de la correspondance privée. Hein. Donc, on part du papier, on va jusqu'au numérique et puis on voit que le papier revient peut-être aussi. Il y a aussi des activités de médiation autour de ça, des rencontres. Donc, c'est un parcours très riche avec des objets même assez émouvants en termes de correspondance.
Ok, et aussi une formation, un atelier autre dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais non, je sais pas.
Alors des ateliers, il y a aussi, si on revient sur le numérique, il y a une série d'ateliers de nouveau à la Cité qui s'appelle le Club du Clic, donc c'est un peu sur l'exemple d'un club de lecture, c'est les gens qui sont invités à se partager leurs bonnes sources sur Internet, les sites intéressants, les applications intéressantes qu'ils ont trouvées. Donc, je trouve le concept assez sympathique aussi.
J'ai encore un dernier renseignement au sujet d'Interroge. Combien de questions vous recevez ? C'est en pleine hausse. Les demandes sont en hausse. Vous avez engagé il y a un an un nouveau collaborateur. Combien de questions vous recevez par jour ou par semaine ? Je ne sais pas comment ça se quantifie.
Alors, on est à peu près à 150 questions par mois. Actuellement, donc on va dire qu'on en traite environ 7 par jour de lundi à vendredi. On ne travaille pas samedi, dimanche, même si les questions continuent d'affluer. Donc voilà, ouais, à peu près 5 par jour, on va dire.
Très bien. Donc, chers auditeurs et auditrices, vous savez où aller pour avoir des réponses plus détaillées, plus fournies, meilleures que celles des ChatGPT et autres moteurs de recherche robotiques.